Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis soirs, 20h, 21h, sur les ondes de CFAC, le 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Oussem Belsta au microphone avec vous pour la prochaine heure. Cette semaine, on a beaucoup de contenu sportif à vous partager. On vous remercie d'être là. Ça va faire bientôt 3-4 ans que l'émission est de retour depuis mes années universitaires. Là, il y a de ça environ une quinzaine d'années. Donc, on est là pour vous offrir du contenu de qualité, des entrevues avec des athlètes, mais également des entrevues d'après-match, de bilan de saison, comme on a aujourd'hui. Et parler un peu du monde sportif, là, puisque c'est un monde que j'adore et c'est un monde qui est très vaste et énorme. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'ai toujours ma page Instagram, le Sport CISM, donc ça s'écrit Sport avec un S et ensuite CSM, c'est la radio de l'Université de Montréal. Et si jamais vous voulez aller voir ça, là, il y a beaucoup de contenu et il y a des liens vers des entrevues que j'ai réalisées. Et le tout, bien sûr, le contenu est gratuit pour vous. Allez voir ça, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est encouragé. Donc Sport CSM, S-P-O-R-T-S-C-I-S-M. On a à peu près là pas loin de 50 followers, on va essayer d'augmenter ça. Puisqu'on vous offre là, des entrevues, on a là-dessus Josh Fillion qui joue au football aux États-Unis. On a également Chloé Renon qui joue à McGill au soccer. Patrick Mondo, l'entraîneur des Carabins de Montréal. Jean Gounel, légende à RDS bien entendu. Durnick Jean, entraîneur des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et autres personnes, puis évidemment des entrevues d'après-match là, et de l'information. Donc écoutez, on va y aller tout de suite. On va commencer par vous montrer le plan de match pour cette émission-là aujourd'hui. Là. On va d'abord parler Christine Sinclair qui a annoncé sa retraite. C'est l'attaquante vedette de l'équipe canadienne de soccer féminine. Et elle a joué son dernier match à Montréal. Il y a d'autres matchs là, qui s'en viennent demain contre le Brésil notamment. Vancouver, là, dans la région de Vancouver, dans l'ouest du Canada, puisque elle vient là, de l'ouest canadien, elle vient de Vancouver, si je ne me trompe pas. Et Montréal ne reçoit pas beaucoup l'équipe nationale canadienne, tant féminine que masculine, donc on va en parler. On va vous donner également le résultat. Également, il y a eu bilan de saison la semaine dernière, là, le CF Montréal qui a mis les pendules à l'heure concernant beaucoup de choses. On a eu des réponses, on n'en a pas trop eu également sur d'autres sujets, on va parler de ça. Également, on a remis les joueurs par excellence de l'année côté CF Montréal. Et là, vous allez être peut-être surpris, mais quand on voit et quand on suit le CF Montréal, là, il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Est-ce qu'il va y avoir des départs de Wanyama, de Losada, de Kyoto, de Toy? Eh bien, on verra. Et il y a également quelques personnes dans le monde médiatique qui sont sorties dans les médias là, pour parler un peu du CF Montréal, un peu, je dirais, en mal. Après ça, ça reste des chicanes de leur côté. Moi, je m'en mêle pas ici, c'est pas mon rôle. Là. Je veux parler sport, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'aspect sportif. Également, on parle, comme à chaque semaine, Phoenix de Sherbrooke. Parce que le Phoenix de Sherbrooke, c'est notre équipe locale ici à Sherbrooke. C'est l'équipe, en fait, qui génère beaucoup de foule, environ 2 à 3 000 personnes à chaque match. Et c'est une équipe qu'il faut encourager. Et pour terminer, bien, on finit le tout avec les matchs à venir côté monde du soccer. Également, on va aussi vous parler là, du classement et des joueurs avec les meilleures statistiques là, dans la Ligue junior majeure du Québec. Et on a des entrevues, notamment celle de Christine Sinclair qu'on va vous présenter là, dans quelques instants. Donc tout d'abord, match du côté du Stade Saputo, ça se passait samedi après-midi à 2h30. Je devais y aller, j'avais une accréditation et c'est peut-être la première fois là, que j'ai manqué en fait un match pour lequel j'étais accrédité. Ça aurait été ma première pour l'équipe nationale canadienne, féminine ou masculine, mais je n'ai pas pu y aller parce que j'ai décidé de commenter le week-end de championnat québécois là, collégial, division 1, soccer masculin et féminin. Ça se passait sur la Rive-Sud, au parc Seaway 3, là, dans la magnifique ville de Saint-Lambert. Et j'ai priorisé ça, pardon, puisque bon, ça me donne de l'expérience. Là, c'était quand même 8 matchs à commenter, coup sur coup, une fin de semaine dehors complète dans le froid, avec l'automne, les belles feuilles et du bon spectacle. Et pour vous informer là, de qui a gagné, eh bien, les champions masculins de l'année, eh bien, c'est Houndstick, les Aigles d'Houndstick qui sont champions collégiales. Donc, félicitations à eux pour la Division 1. Et pour les championnes féminines, eh bien, c'est le Cégep de Saint-Lambert. Et Saint-Lambert, eh bien, elles iront du côté de l'île du Prince-Édouard où est-ce que les championnats canadiens vont se passer. Et pour Houndstick, eh bien, ça sera du côté de de Windsor en Ontario, qui est juste à côté de Détroit. Donc, Windsor, c'est connu, c'est au Canada, mais c'est très connu aussi parce que, eh bien, c'est juste à côté là, de Détroit, une ville importante quand même de l'histoire des États-Unis. Surtout, là, on sait, je pense que je ne dis pas de bêtises en disant que Ford et l'industrie automobile a été très forte là-bas à un moment donné. Donc, ça, c'est pour un petit mot pour nos athlètes collégiales ici parce que si on n'en parle pas, bien, personne va en parler. Maintenant, match canadien, 11 de départ ici là, qu'on va vous donner pour l'équipe nationale canadienne. On va vous dire, ça a été un match où est-ce que Christine Sinclair n'a pas débuté. Dans les buts, c'était Kylan Sheridan. En défense, on avait Sydney Collins, Kadisha Buchanan, Quinn, Ashley Lawrence et Vanessa Gill. Comme attaquante, on avait Nichelle Prince, Adriana Leon et Chloé Lacasse. Et milieu de terrain, on avait également Jessie Fleming. Il faut rappeler aussi Jade Rose qui a joué en défense centrale également. Donc, beaucoup de joueurs à vocation défensive dans ce match-là, mais certaines joueuses là, se sont portées beaucoup vers l'attaque, comme Sydney Collins et Ashley Lawrence, donc ça n'était pas là, un match très ultra défensif de la part de l'équipe canadienne, même si le match c'était 0-0 jusqu'à la fin du match, jusqu'à la 94e minute, et là, Debina, la brésilienne, eh bien, elle a marqué 1-0 pour battre l'équipe nationale canadienne, là, ici, côté Stade Saputo. Et c'est un match où est-ce que Canada avait eu quand même des grosses opportunités de marquer. Là, notamment, il y avait un tir de Léon qui rentrait directement dans le but. Là, c'était un tir cadré pour Adriana Leon, mais malheureusement, la joueuse canadienne a empêché le ballon de rentrer. Et donc, c'était un but là, qui était tout fait. Et les Brésiliennes sont revenues au score avec Debina, qui joue côté Kansas City Current. Beaucoup de ces joueuses, bien sûr, jouent du côté des États-Unis, puisque c'est là où est-ce qu'on retrouve une des meilleures ligues au monde, et d'autres jouent en Europe. Il n'y a pas de joueuses là, de l'équipe nationale titulaire là, qui joue au Canada, puisqu'il n'y a pas, je crois, de ligue professionnelle, coast to coast, comme on dit, là, de soccer féminin. Mais un jour, peut-être que ça viendra, et peut-être, qui sait, on pourrait avoir des équipes canadiennes qui pourraient, comme on dit, se joindre, merger avec la Ligue américaine. Et donc, défaite de 1-0 ici, le côté canadien. Les équipes canadiennes qui sont entraînées par Priestman, bien entendu, et dans la défaite, c'est ça. C'est un match amical là, qui se résulte par une défaite de 1-0 des Brésiliennes à Montréal. Malgré ça, le stade là était quand même plein. Le stade, il y avait de l'ambiance et pour un match de soccer féminin à Montréal, il faut être fier de ça. Puis ça va envoyer un message à Soccer Canada que ici à Montréal, eh bien, je dis ici à Montréal, là on est à Sherbrooke, là, mais dans la région montréalaise, Sherbrooke c'est pas très loin, on peut quand même avoir là du soccer de qualité et les gens vont venir, les gens sont friands de soccer ici. Malgré ça, c'est un petit message envoyé là aux politiciens et à certaines maires et mairesses. J'aime pas faire de la politique et encore moins du populisme. Mais je vais le répéter, c'est très dommage de ne pas avoir de match de Coupe du Monde ici au Québec, alors que seulement deux villes au pays vont recevoir des matchs de la Coupe du Monde. C'est bien sûr Toronto et Vancouver. On est content pour eux là. Peut-être que ça pourrait changer pour Montréal, mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Et quand on voit que la Coupe du Monde 2026, donc la prochaine, là, dans moins de 3 ans, va se passer Canada, Mexique, États-Unis, et qu'on voit que les États-Unis ont déjà accueilli la Coupe du Monde en 1994, et qu'on voit que le Mexique l'a déjà accueilli en 1970 et 1986, donc le Canada, c'est la première fois qu'on accueille la Coupe du Monde dans notre beau pays, eh bien au Québec, des personnes ont décidé de ne pas donner de match aux fans de soccer montréalais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais toutes les retombées économiques, eh bien, elles iront à Toronto, elles iront à Vancouver, à Boston, New York, Philadelphie et toutes les villes là, qui sont près de nous aux États-Unis, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre et incluant New York aussi là, et Philadelphie qui ne sont pas dans la Nouvelle-Angleterre, mais pas loin. Donc, voilà, défaite pour l'équipe canadienne pour les femmes de Bev Priestman. On va écouter avant ça, là, j'ai réalisé une entrevue avec Christine Sinclair. L'événement, c'était surtout la première conférence de presse de Christine Sinclair depuis qu'elle a annoncé sa retraite du monde du soccer. Et d'ailleurs, j'ai été le premier à pouvoir poser une question. Et pour moi, c'est un vrai honneur, là, vraiment, Christine Sinclair. C'est une femme de classe, elle a pris le temps de vraiment bien répondre à ma question. Et encore une fois, je suis fier que Soccer Canada, et je les remercie là, notamment Philomène Souli-Bitty qui m'a donné une accréditation pour ce match et pour probablement le match contre la Jamaïque à Toronto qui va se passer en novembre. Là, je les remercie et ça me fait plaisir et pour moi c'est un honneur de voir que CFAC puisse assister à plusieurs événements sportifs et puisse être là à plusieurs événements sportifs là, depuis le début. On les a mentionnés, on ne va pas le faire maintenant là, puisqu'on veut montrer la présentation de Sinclair. Mais à la fin de l'émission, j'aurai une pensée spéciale pour toutes les personnes, les intervenants dans le monde sportif qui nous ont permis d'être là pour couvrir des événements. Donc on y va avec la question que j'ai posée à Christine Sinclair. Je vais la traduire tout de suite. Je lui ai demandé en anglais si un jour, quand elle était petite, elle pensait avoir l'impact et la carrière qu'elle a eue dans le monde du soccer féminin. On l'écoute.
Hi, Christine. Thank you for your time. When you were a young girl, did you ever imagine that you could have an amazing career like the one that you had, because you're not retired yet, and the legacy that you left to? Did you ever imagine that when you were young, or?
No, of course not. Still to this day, I just play because I love it. But yeah, I started playing, honestly, because my brother did, and I wanted to do what he did, and I mean, I was convinced as I progressed through sports, I was going to go to the Olympics. But for some reason, I thought of myself as a speed skater, even though I don't skate. But that was, I remember Katrina LeMay-Dill winning gold, and yeah, I was going to do that. So no, soccer was just what I did for fun because I loved it. And then the legacy I've left. I don't know, I think when I'm actually done playing, I'll look back on that. I'm just proud to have been a part of just the growth of women's football around the world and obviously here in Canada.
Voilà, donc c'était Christine Sinclair, l'attaquante numéro un historique de l'équipe nationale, connue mondialement dans le monde du soccer, dans le monde du foot. Et elle a dit, bien entendu, qu'elle a commencé à jouer au soccer, elle, quand elle était jeune, parce que son frère jouait, puis elle voulait jouer avec lui. Et c'est pas très connu, ça, de la part de Sinclair. Eh bien, on a pu avoir cette information-là. Et également, elle a dit que pour son legacy, là, pour ce qu'elle va laisser comme héritage au monde du soccer féminin, eh bien, elle attendra de voir quand elle sera à la retraite. Et elle a remercié, bien entendu, là, ses coéquipières et ses entraîneurs. Puis d'ailleurs, Christine Sinclair, là, c'est quelqu'un de très humble. Honnêtement, là, je ne dis pas ça parce que, bon, j'ai eu l'entrevue, puis blablabla. Là. C'était vraiment plaisant l'écouter. Quand elle te répond, elle te regarde, elle a une attitude très, très positive. Donc vraiment, j'ai été privilégié d'avoir une entrevue avec elle et de pouvoir, en fait, de pouvoir lui poser une question là, dans la conférence de presse. Ça n'était pas une entrevue. Et après, quand elle est sortie, là, elle a dû un peu se dépêcher à la fin puisque l'autobus l'attendait pour partir. Eh bien, je lui ai serré la main et je peux dire aujourd'hui que j'ai serré la main à Christine Margaret Sinclair, née le 12 juin 1983, âgée de 42 ans, qui vient de Burnaby, en Colombie-Britannique, et qui a joué là pour beaucoup de clubs, mais sa dernière... Ses derniers buts, elle les a marqués avec les Portland Thorns, 180 matchs, 68 buts. Et pour l'équipe nationale canadienne, mesdames et messieurs, écoutez bien ça. Canada, moins de 20 ans entre 2001 et 2002, 19 matchs joués, 27 buts. Et pour l'équipe nationale canadienne, c'est 328 matchs joués, 190 buts. C'est énorme. Et pour les honneurs, eh bien, elle a eu là, beaucoup... d'honneur, là, je ne vais pas toutes les nommer. On va en parler ici. Là, elle a gagné le Portland Thorns, le NWSL Championship en 2013, 2017, 2022, le Shield en 2016, 2021, la Challenge Cup en 2021, le Community Shield en 2020 et l'International Champions Cup en 2021, avec le Western New York Flash champion en 2011, FC Gold Pride championne en 2010, Vancouver Whitecaps USLW League 2006, bien, elle a gagné le titre. Et avec l'équipe nationale canadienne, eh bien, il n'y a pas très longtemps, elle a gagné les Jeux olympiques d'été en 2021, la médaille d'or, la CONCACAF, le championnat en 2010, les Jeux panaméricains en 2011 et d'autres. Elle a été également pour la joueuse de l'année pour la FIFA. Elle a terminé sixième en 2002. Et elle a été candidate plusieurs autres fois. Elle ne l'a pas gagné, malheureusement, là, mais bon, elle n'est pas passée très, très loin. Donc, voilà, beaucoup de titres individuels. Je ne vais pas tous les nommer, là. Donc, merci beaucoup, Christine Sinclair, pour ce que tu fais, parce qu'elle n'est pas encore retraitée. Elle va continuer. Demain, il y a un match contre le Brésil. C'est un 2-2, là, avec l'équipe nationale brésilienne qui se passe du côté de la Colombie-Britannique. Regardez ce match-là, si vous le pouvez. Et encore une fois, Christine Sinclair, on te remercie beaucoup. Et maintenant, on s'en va en musique. De retour sur les ondes de CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Ou bien vous syntonisez ça là, dans votre véhicule, 88,3 FM. Et si vous l'écoutez en ce moment, eh bien, je vous salue. Mon nom est Wissam Bensta et je suis au microphone pour Soccer Sport tous les lundis soirs 20h. Et également, j'ai une page Instagram qui partage mes entrevues que je réalise avec les athlètes universitaires, essentiellement côté universitaire. Donc, c'est Sport avec un S, C-S-M, S-P-O-R-T-S-C-I-S-M. Donc, allez donner un petit like, allez donner un petit commentaire. Dites des petits mots d'encouragement ici. On fait ça par bonté de cœur. On est des volontaires et on adore parler de sport. Et tous les volontaires ici de ces facs là, qui ont des émissions de radio, on les salue également si vous êtes à l'écoute. On va parler CF Montréal. CF Montréal qui n'a pas participé aux séries éliminatoires de la MLS qui ont déjà débuté le week-end dernier. Et on avait déjà parlé la semaine dernière, on a fait un bilan de saison, on avait mentionné normalement, essentiellement, qu'il manquait de qualité offensive, surtout par rapport aux blessures de Kyoto. Et là, on a appris au point de presse que Duke et également Opoku, qui est venu de Los Angeles FC, ce sont deux joueurs qu'on aurait voulu faire venir plus tôt. Donc, c'est un point. C'est toujours important d'écouter ce que le club a à dire. Moi, ici, je ne suis pas dans les bureaux de Olivier Renard, ni de ceux-là de Joey Saputo. Donc, je ne peux pas commencer à sortir des histoires à gauche, à droite pour vous expliquer que c'est ça qui est fait et qu'ils ont fait des erreurs, etc. Je dois écouter les deux côtés et après ça, me faire ma propre opinion. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ma propre opinion, c'est que l'équipe, avec l'effectif qu'elle a et les blessures qu'elle a eues, ça a été très compliqué et malgré tout, ça n'a pas été une saison catastrophique. Ça n'a pas été une saison aussi bonne que la saison dernière. Mais la saison dernière, il y a eu un peu moins de blessures. Kyoto, qui est de loin le meilleur attaquant de l'équipe, n'était pas là pour toute la saison. C'est 15 buts marqués la saison dernière, plus des passes également. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup marqué en séries éliminatoires. Kyoto est dans les derniers matchs, donc dans la saison, il a été présent. Et parmi les attaquants qu'on a eus, beaucoup ont eu leur chance, mais il n'y a personne essentiellement qui a pu garder sa place. On peut me dire ce qu'on veut, mais mis à part Kyoto, le CF Montréal là, n'a pas d'attaquants qui ont sur leur feuille de route des statistiques de plusieurs buts marqués, de plus de 10 buts marqués régulièrement par saison. Ça n'existe pas. On en a qui sont là depuis des années et ça ne marche pas malheureusement. Et ce qui marche, c'est ce que le staff a mentionné lors du point de presse du bilan de saison. Olivier Renard l'a mentionné. Des talents locaux comme Jonathan Sirois, comme Mathieu Chouanière, comme Piette, comme Nathan Saliba. Donc avec les joueurs locaux québécois que nous avons, eh bien ça a été une très belle saison sur ce point. Avec les joueurs internationaux, par exemple, là, ça n'est pas exactement dans la même lignée. Là, on a beaucoup de joueurs qui viennent, qu'on les a fait venir de l'extérieur et avec le CF Montréal, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ce sont des joueurs qui gagnent un bon salaire également. Là, on va en nommer quelques-uns. Bon, il y avait Matko Miljevic qui est parti. Je ne mentionnerai pas pourquoi. Là, on a Ahmed Hamdi qui est venu directement d'Égypte. Ça n'a pas trop fonctionné, malheureusement. Au fort, ça a été acceptable. Georgia Cuisera, ça n'a pas trop fonctionné à date. Pas beaucoup de temps de jeu. Aaron Herrera, beaucoup blessé. Donc ça l'a fait mal. Torkelson, il est encore jeune. Et donc, l'année dernière, on en avait quelques-uns également. Là. Donc il va falloir que le CF Montréal fasse un bon mercato. hein, qu'il puisse signer quelques joueurs, peut-être se débarrasser de certains pour faire baisser la masse salariale. Mais ce qui a été positif lors de ce point de presse, eh bien, ça a été les trophées là, remis aux deux joueurs québécois, joueurs par excellence de la saison et le joueur défensif de l'année. Également, le récipiendaire du trophée, Jason DiTullio. Jason DiTullio également, je le rappelle, là, c'était un ancien joueur et membre du staff du CF Montréal qui est décédé malheureusement trop jeune. Et à chaque fois qu'on remet le trophée Jason DiTullio en fin de saison lors du bilan de saison là, au centre Nutrilec, qui est le centre d'entraînement du CF Montréal, eh bien la mère de Jason DiTullio était là. Et puis, ça lui faisait quelque chose d'être là. Et pour elle, là, c'est un trophée. Là, c'est très important pour elle. Et on le voyait sur son visage. J'étais assis juste devant elle. Une madame très gentille, très chaleureuse, avec qui j'ai pu échanger quelques mots. Et voilà, qui a perdu un fils beaucoup trop jeune. Donc, voilà, beaucoup trop tôt. Donc, maintenant, on va y aller avec les trophées. On va tout d'abord vous les annoncer. Eh bien, Jonathan Sirois, le gardien de but, joueur défensif de l'année de la saison en MLS là, pour le CF Montréal. Ça ne faisait aucun doute. S'il y a un gardien de but, un joueur ou deux là, qui peut être dans l'équipe type de l'année de la MLS, eh bien, ça pourrait être Jonathan Sirois qui a connu une très belle saison. Il a fait quelques erreurs, malheureusement, là, à quelques moments qu'il ne devait pas faire, notamment lors du championnat canadien. Mais le nombre de points qu'il a permis au CF Montréal de prendre, eh bien, ça les vaut tous. Et donc, félicitations à Jonathan Sirois, qui a également pris le record de jeu blanc là, cette année avec le CF Montréal. Joueur défensif de l'année en 2023. 2022, c'était Alistair Johnson, qui joue maintenant au Celtic de Glasgow. 2021, Rudy Camacho, qui joue au Columbus Crew à l'heure actuelle. 2020, Louis Binks. 2019, Bakary Sagna, ancien joueur international français. 2018, Evan Bush, le gardien de but. 2017, Daniel Lovitz. 2016, Assun Kamara. Et 2015, Laurent Simon, qui est à l'heure actuelle l'entraîneur adjoint de Hernan Lozada au CF Montréal. Donc, on va écouter la question que j'ai posée en conférence de presse là, à Jonathan Sirois.
Bonjour Jonathan, félicitations pour ton trophée. Est-ce qu'il y a un moment durant la saison où est-ce que tu as vraiment senti le déclic ou est-ce que tu l'anticipais, que tu savais que ça allait être une grosse saison pour toi? Si oui, lequel?
Je ne dirais pas il y a un moment. Moi, j'approche chaque match vraiment comme un privilège, comme un cadeau. Je crois que tout au long de la saison, c'est ce que j'ai fait. Du premier match à Austin, ou même les matchs en championnat canadien contre Forge, ou vraiment, chaque match, moi, je les vois comme une opportunité de m'améliorer, mais de me prouver aussi. Puis, c'est sûr qu'il y a un moment dans la saison où j'ai une discussion avec l'entraîneur. Puis, une fois que j'ai su que j'allais garder le poste de titulaire, ça m'a un peu soulagé. Mais je crois que j'ai jamais arrêté j'ai pas changé ma mentalité, j'ai pas arrêté de travailler. Puis, je crois que c'est pour ça que j'ai quand même bien performé tout au long de la saison.
Merci.
Voilà, donc c'était Jonathan Sirois qui a parlé de sa belle saison. Maintenant, on va y aller avec Mathieu Chouanière, là, qui a été le joueur par excellence là, du CF Montréal pour la saison MLS. On va les nommer vite fait ceux qui l'ont gagné avant lui. Donc 2022, Romel Kyoto. 2021, Georgi Mihailovic, qui joue maintenant aux Pays-Bas. 2020, Kyoto. 2019, Orji Okwonkwo. 2018, Piatti. 17, Piatti. 2016, Piatti. 2015, Piatti. 2014, Andrés Romero. 2013, Marco Di Vaio. Et 2012, le joueur québécois Patrice Bernier. Donc, on va aller écouter qu'est-ce que Mathieu Chouanière avait à dire par rapport à un de ces deux trophées, puisqu'il a également gagné le trophée Jason DiTullio, qui a été remporté par lui-même, Mathieu Chouanière, cette année. Et l'année dernière, c'était Thomas Giraldo qui l'avait gagné en 2022, qui joue maintenant à Halifax en Canada Premier League.
Bonjour Mathieu, félicitations pour ton trophée. Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui après cette magnifique saison de ta part?
Je vais commencer par celui de Jason DiTullio, la Vinta. C'est un trophée qui représente beaucoup pour moi, qui vient vraiment toucher mon cœur. J'ai connu Jason pendant longtemps avec l'académie en professionnel. C'est cette passion, c'est la personne en gros qui dégageait, c'était exceptionnel. Puis c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu garder en moi. Puis gagner ce trophée-là, puis représenter Jason par rapport à ça, c'est quelque chose qui me représente beaucoup. Et je suis vraiment content de l'avoir gagné.
Merci.
Et pour le deuxième, tout le crédit va au groupe, à mes boys, dans l'équipe. Je suis un joueur individuel, puis sans eux, justement, ce collectif-là, ils m'ont rendu meilleur cette année, non seulement aux entraînements et pendant les matchs. Fait que j'ai eu besoin d'eux pour justement faire les performances que j'ai pu faire. Donc, tout le crédit va au groupe et au staff.
Merci.
Voilà, donc c'était Mathieu Choinard qui remerciait ses coéquipiers. Et pour lui, bien sûr, c'est un très grand honneur. C'est un des salaires, bien sûr. C'est pas le salaire le plus élevé du club, Mathieu Choinard, là, mais quand il y aura renégociation de contrat, là, quand le contrat viendra à échéance, je peux vous assurer là, qu'il va toucher un peu plus parce que c'est un joueur qui a un très bon avenir. Puis on le sait très bien, là, le CF Montréal est très honnête avec ça. S'il y a des clubs européens qui viennent pour chercher certains joueurs du CF Montréal, surtout des joueurs formés au club, sur lesquels il pourrait se faire beaucoup de profit. Puis également, c'est pas juste ça, là, c'est le joueur également. Lui, il faut dire qu'est-ce qu'il est. La MLS, c'est une très bonne ligue. Mais quand tu as l'opportunité de jouer des grosses compétitions européennes, là, comme Alistair Johnson cette année qui joue la Ligue des champions, eh bien les joueurs, ils aspirent tous à aller en Europe dans un grand championnat pour briller, comme Alistair Johnson là, qui joue au Celtic, Glasgow Celtic, là, championnat écossais, un club historique là, que tout le monde connaît. Et donc voilà, ça conclut un peu ici le point du bilan de saison du CF Montréal. Je vais en profiter à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de nouvelles là, sur des transferts ou des mouvements dans le club. Mais par contre, je peux vous dire qu'on va en parler dans les prochaines semaines également. Là, le CF Montréal éliminé des séries éliminatoires à la suite de sa défaite contre le Columbus Crew 2-1 il y a de ça 2 semaines. Et je tiens à remercier le monde des communications et le club du CF Montréal pour nous avoir permis à moi-même et à CFAC d'avoir pu couvrir les matchs et pour en parler à la radio et d'avoir eu une accréditation médiatique. C'est très apprécié et je trouve ça très bien qu'ils donnent une accréditation à certaines radios, comme on dit, qui sont plus éloignées de Montréal pour avoir une visibilité aussi à l'extérieur du Grand Centre montréalais, comme on peut le faire ici du côté de Sherbrooke. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce point de presse du bilan de saison. On va y aller maintenant, on retourne en musique et on revient après ceci. Lisez ça dans votre véhicule lorsque vous faites la route, en road trip ou peu importe où. Et on est là pour vous offrir du bon contenu musical et ce soir, du contenu sportif. Donc on vient d'écouter 4 chansons back-à-back. C'est rare que je fais ça, mais aujourd'hui, ça se prêtait bien. La dernière, c'était « Sarà perché ti amo ». Ça, c'est une chanson italienne de Ricci et Poveri. On a également eu « Marguerite Thiam ». Nouveauté francophone, bien sûr, de la semaine ici avec Plus rien n'est grave. On a eu Forever de Churches et Laurent San avec sa chanson Fantôme. Donc, beaucoup de nouveautés francophones ici à CFAC. Maintenant, on va y aller avec petite actualité sur le Phoenix de Sherbrooke. Des matchs qui se sont joués. Et le Phoenix de Sherbrooke, les 27 et les 28 octobre, eh bien, ils sont venus avec 2 victoires consécutives. Et donc, ça fait du bien pour le Phoenix. Tout d'abord, on va commencer avec le 27 octobre. C'est un match contre les Aigles du Cap-Breton. Et ça s'est terminé par la marque de 2-0. Donc, blanchissage ici là pour le Phoenix de Sherbrooke, pardon, aussi, là, je bégayais pour Samuel Saint-Hilaire qui récolte le jeu blanc. Deuxième étoile, Jakub Milota, le gardien du Cap-Breton. Ça n'a pas été un match très offensif, donc les gardiens ont été présents. Et troisième étoile, Étienne Tremblay, Mathieu également, qui a eu la troisième étoile, qui est un défenseur qui a connu un bon match. Les buts dans ce match-là, Louis Gendron, son 4e avec des passes à Olivier Dubois et Christophe Rondeau. Et deuxième but, ça a été en 3e période là, à la fin, Maxime Côté avec des passes à Louis Gendron et Hugo Marcille à 18 minutes 30. C'était dans un filet désert, donc Louis Gendron qui récolte 2 points, mais pas d'étoile pour lui. On a décidé de donner ça au gardien de but. Et ensuite de ça, il y avait le 28. Donc ça, c'était samedi soir. Il y avait un match Phoenix de Sherbrooke contre Saguenayens de Chicoutimi. Donc, c'est un long road trip pour Chicoutimi. Ça se passait du côté de Sherbrooke. Et ça s'est terminé par la marque de 6-2. Et cette fois-ci, dans les 3 étoiles, eh bien, aucun gardien de but. On va vous nommer la feuille de match. Là, on va vous la partager. Donc, ça a commencé en première période avec 3 buts. Tout d'abord, Jérémy Leroux pour les Saguenayens avec des passes à Emmanuel Vermette et Alex Wang. C'était un but en avantage numérique. Ensuite de ça, le Phoenix de Sherbrooke a égalisé en avantage numérique avec Maverick Lachance, son 7e de l'année. Des passes à Rondeau et à Dej. Et ensuite, à la 7 minutes 53 secondes, Israël Mianscom, son 7e avec des passes à Belchamber et Gendron. Donc, Gendron qui s'affiche sur la feuille de match ici, là, pendant le week-end du côté de Sherbrooke. Deuxième période, 3 buts à 34 secondes. Maxime Massé, son 8e, des passes à Thomas Durruisseau et Jonathan Desrosiers. Et ensuite, pour faire 4-2, eh bien là, ça a été Andrew Belchamber, son 3e de la saison avec des passes à Jesse Carrière et Israël Mianscom. Et ensuite de ça, eh bien, c'est le festival Belchamber qui marque encore à 8 minutes 20 en deuxième mi-temps avec des passes de Mianscom. Et ensuite, c'est son tour du chapeau, son 5e de la saison, Andrew Belchamber, à 15 minutes et 17 secondes avec des passes à Israël Mianscom, Étienne Tremblay, Mathieu. Et pour terminer le tout, en troisième période, Louis Gendron, son 5e avec des passes à Maverick Lachance et Frantitek Dej pour faire 6-2. Les trois étoiles du match, Andrew Belchamber, 3 buts, 1 passe. Deuxième, Israël Mayenscom, 1 but, 3 assists. Et troisième étoile du match, Maverick Lachance avec 1 but, 1 passe. Au niveau des tirs, ça a été 29 tirs pour les Saguenayens de Chicoutimi. Et le gardien en a sauvé 27. Et pour Sherbrooke, ça a été 30 tirs au but. Donc voilà. Maintenant au classement, qu'est-ce que ça donne au classement général? On va vous présenter ça dans l'association de l'Ouest, qui est l'association du Phoenix de Sherbrooke. Avec ses 2 victoires, le Phoenix monte au 5e rang. Premier, les Tigres de Victoriaville, 20 points. Deuxième, Rouyn-Noranda. Troisième, Drummondville avec 19 points. Quatrième, l'Armada Blainville-Boisbriand, les régions de Montréal avec 18 points. Phoenix, 17 points, 5e. Cataracte de Shawinigan, 15 points, 6e. Septième, les Foreurs de Val-d'Or avec 11 points. Et les derniers dans l'Ouest, bien, c'est les Olympiques de Gatineau avec 10 points. On le répète, là, il y a très peu d'équipes qui ne font pas les séries. Je crois que c'est seulement les 2 derniers de chaque division, peut-être même que le dernier, là. Donc, la plupart des équipes vont participer aux séries éliminatoires. Donc, il reste en plus beaucoup de hockey à jouer. Et dans l'Est, bien le Drakkar de Baie-Comeau qui vient d'en gagner 5 de suite, là, 12 victoires, 2 défaites. 2 défaites en prolongation, 26 points, premier de l'Est. Deuxième, Moncton Wildcats, 23 points. Troisième, Moosehead d'Halifax, 21 points. Eagles du Cap-Breton, 18 points, 4e. 5e, Rimouski. 6e, Charlottetown. 7e, les Saguenay de Chicoutimi. 8e, le Titan d'Acadie-Bathurst. 9e, Remparts de Québec, l'équipe championne l'année dernière avec 12 points. 15 matchs joués, 6 victoires, 9 défaites. Et dernier, les Sea Dogs de Saint John. Au Nouveau-Brunswick, là, pas Saint John. Et le poste Saint-Jean Terre-Neuve, là, ici, là. C'est très important de préciser ça. Et pour conclure le tout sur la LHJMQ, eh bien, on va y aller avec les pointeurs, les meilleurs pointeurs de la ligue. Eh bien, on a commencé, là, avec Justin Gill, avec 25 points de Baie-Comeau. Ensuite, de Moncton, Johan Lushing, avec 22 points. Alexandre Blais, 22 points de l'Océanique de Rimouski. Les Tigres de Victoriaville, Justin Larose avec 21. Et Luke Woodworth des Voltigeurs de Drummondville avec 21 points. Meilleur buteur cette année, eh bien, c'est Michael Horth des Islanders de Charlton avec 14. Le meilleur passeur, eh bien, c'est Justin Gill, on l'a déjà mentionné, du Drakkar de Baie-Comeau avec 18 buts. Et en termes de blanchissage, pour les gardiens de but, eh bien, plusieurs ont un blanchissage, mais personne n'a 2 blanchissages à l'heure actuelle. Louis-Félix Charroy, Mathis Rousseau, Samuel Saint-Hilaire, William Rousseau et Jacob Steinman ont tous 1 blanchissage. Et donc, voilà, c'est la petite rubrique là pour la LHJMQ. On va vous donner le calendrier. Donc, les prochains matchs pour le Phoenix de Sherbrooke, eh bien, le 2 novembre, ça c'est jeudi, il y aura déplacement du côté du Cap-Breton pour une virée là dans les Maritimes. Ça commence le 2 novembre à 7h contre Cap-Breton. Ensuite, le 4 novembre contre Halifax au Scotiabank Center. Et le 5 novembre pour terminer là la virée dans les Maritimes contre Saint John à 3h de l'après-midi à TD Station. Prochain match à domicile, c'est le 12 novembre contre le Titan d'Acadie Bathurst. Fait à mentionner pour l'assistance du week-end côté Phoenix de Sherbrooke, eh bien 2479 spectateurs y étaient le 28 octobre et le 27, il y en avait 2244. La meilleure foule cette saison pour le Phoenix de Sherbrooke, eh bien c'était le match d'ouverture, 2867 personnes contre l'Armada Blainville-Bois-Briand. Et donc, c'est quand même intéressant là, de voir qu'il y a beaucoup de personnes de la région de Sherbrooke qui vont là. Et l'année dernière, la meilleure foule côté Phoenix de Sherbrooke, eh bien, c'était 4005 spectateurs plusieurs fois, là, notamment contre Québec, contre Chicoutimi, contre Victoriaville. Il y a eu plusieurs fois là, où est-ce qu'il y a eu salle comble l'année dernière du côté du Palais des Sports Léopold Drolet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois, 10 fois, l'aréna s'est remplie. Encore une fois, je vous recommande fortement d'y aller. C'est du beau spectacle et contrairement à d'autres produits sportifs, là, vous êtes tout près de l'action et les billets ne sont pas chers. Donc, allez-y. Et donc, on va terminer l'émission avec les matchs à venir. Donc, demain soir, Brésil-Canada, ça se passe du côté de Canada, de l'Ouest, donc à Colombie-Britannique. Et les matchs de la semaine, eh bien, mercredi le 1er novembre, on a Manchester-Newcastle, ça c'est un match de la Coupe anglaise. On a également Columbus contre Atlanta, ça c'est un match des playoffs en MLS. Samedi, on a Atalanta-Inter en Italie, on a Newcastle-Arsenal, ça va être un gros match. Dortmund-Bayern de Munich en Allemagne, le plus gros match possible chez nos amis allemands. Ensuite, à 4h samedi, on va avoir, heure de Montréal, on va avoir Real Sociedad qui reçoit l'FC Barcelone. Marseille-Lille, à 15h, à 16h samedi. Lyon-Marseille qui a été annulé là, puisqu'il y a l'autobus de Lyon qui s'est fait caillasser. Donc, Fabio Grosso avait été un peu blessé. Donc, j'ai pas suivi toute l'information, là, mais le match a été annulé, voire reporté pour l'Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Lyon. Ça devait se jouer là, dimanche soir côté français. Et dimanche, le 5 novembre, on va avoir le Cercle Bruges qui reçoit Anderlecht. Un petit match ici pour nos amis belges. Voilà, donc c'est tout pour cette émission-là. Je remercie beaucoup là, les gens ici qui nous ont permis de faire l'émission, la mise en onde, le staff technique de CFAQ. Et encore une fois, je tiens à remercier toutes les accréditations et les personnes qui font confiance à CFAQ et qui permettent à CFAQ de pouvoir couvrir du sport et qui me permettent de pouvoir me balader un peu partout pour couvrir des événements sportifs, que ce soit Yvon Michel et les Galas de boxe, l'Alliance de Montréal, le CEF Montréal, les Carabins de l'Université de Montréal également, les GGs de l'Université d'Ottawa, les Ravens de Carleton, les Cavaliers de Champlain qui m'ont permis de commenter, de décrire les matchs et de passer à l'analyse là, pour le championnat national. Je ne veux pas en oublier, là, il y en a beaucoup qui m'ont donné des accréditations. Et donc, j'en suis très fier et très heureux. On peut également parler du Phoenix de Sherbrooke, bien sûr, les Tigres de Victoriaville, l'Armada de Blainville, je ne vais pas tous les nommer, là, les Stingers de Concordia aussi, les Redbirds de McGill. Donc, voilà. Il y a beaucoup de sport dans le monde universitaire québécois, là, je tiens à le mentionner, et aller suivre ça, c'est selon moi le meilleur rapport qualité-prix de tout événement sportif qu'on peut voir au Québec, là, c'est le sport universitaire, et je rajouterai également la LHJMQ. C'était Wissam Bensta au microphone pour Universitaire en action et CFAQ en ce lundi 30 octobre 2023. Merci d'avoir été là. Et je vous rappelle la page Instagram Sport avec un S, S-P-O-R-T-S-C-I-S-M, pour aller nous suivre sur notre compte Instagram ici pour partager des entrevues avec des athlètes universitaires. Bonne semaine et soyez prudents et bon Halloween.